Et justement, en route vers les trous noirs, aujourd'hui à la une de la science.
Démarrage dans 30, moteur d'orientation sur attente. Vous devriez venir par ici.
La force la plus destructrice de tout l'univers. Rien ne peut lui échapper, pas même la lumière. Quand on voit des gigantesques soleils qui ont été aspirés sans laisser aucune trace. Agrandissement d'image, veux-tu ?
Le plus vaste des trous noirs que j'ai jamais approché.
Et depuis les années 70 et ce film, Le Trou Noir des studios Disney, eh bien, nous comprenons de mieux en mieux ces objets. Mais en cette fin d'année 2018, Axel, les choses se sont fortement accélérées visiblement.
Oui Mathieu, en 5 mois et à travers 3 publications d'envergure, l'instrument Gravity de l'ESO a permis de les approcher comme jamais. Et aujourd'hui à la une, c'est bien sûr le trou noir du centre de notre galaxie qui va nous intéresser. Car nous savons maintenant qu'il existe, c'est déjà pas mal. Nous savons où il est et à peu près quelle taille il fait. Et pour en parler, nous sommes en studio avec Guy Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, pardon, directeur scientifique adjoint de l'Institut National des Sciences de l'Univers pour le CNRS. Et vous êtes également l'un des deux papas de l'instrument Gravity qui a permis ses inventés. On va y revenir. Pour commencer, on pourrait présenter Sagittarius à étoile, qui est le trou noir du centre de la galaxie. Si j'ai bien compris, avant vos travaux, on n'était même pas sûr qu'il existe.
Alors, on a une suspicion très très forte depuis les années 70, depuis sa découverte en 74, que cette source Sagittarius à étoile, en fait, abrite un trou noir, même supermassif, pour être très brillante comme ça au centre de la galaxie. Mais on cherche à apporter la preuve qu'effectivement, il s'agit d'un trou noir. Et bon, les dernières avancées avec Gravity ont fait un pas énorme dans ce sens. Oui.
Alors, vous avez publié l'observation la plus détaillée des contours de ce trou noir hypothétique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
En fait, ce qu'on a vu très récemment, c'est des sursauts, donc des événements lumineux extrêmement brillants, tout près de Sagittarius à étoile, et on a pu en mesurer Gravity, la trajectoire. En fait, on a mesuré l'orbite de ces sursauts. On a vu 3 sursauts entre mai et juillet de 2018 de cette année, et on a vu les trajectoires, les orbites, et on a pu dire que ces orbites, en fait, ont une taille qui est de l'ordre de quelquefois le rayon du trou noir. Donc on a approché le trou noir véritablement très près.
Mais c'est en mesurant ces orbites que vous donnez la taille du trou noir ou c'est l'inverse ?
Alors la taille du trou noir, la taille théorique, elle est connue avec la théorie d'Einstein de manière assez précise à partir du moment où on connaît la masse précisément. Et avec les données Gravity, on connaît la masse à 1% près. Voilà. Maintenant la question c'est est-ce qu'on valide cette formule théorique par des mesures observationnelles, concrètes. Voilà. Et donc, on s'approche de cette validation.
Alors, quelles sont les choses qu'on ne comprend pas bien à propos de ce trou noir du centre de la galaxie ? Parce que là, vous dites, on arrive à en estimer la taille, mais il y a beaucoup de choses qu'on essaye de savoir.
Alors, ce qu'on aimerait, c'est complètement caractériser physiquement le trou noir. En fait, il se trouve qu'un trou noir, ça semble être un objet assez mystérieux, mais d'un point de vue de la physique, c'est un objet très simple qui se décrit avec 3 paramètres. La masse, la charge, dont on peut imaginer qu'elle soit nulle, et puis le taux de rotation, ce qu'on appelle le spin. Voilà. Et la masse, on l'a, il nous manque aujourd'hui le spin.
Alors si on rentre un petit peu dans le détail de vos méthodes, comment est-ce que vous faites pour aller voir ce qu'on ne voit pas ? Il faut qu'il y ait de la matière autour, sinon vous ne voyez pas le trou noir, c'est ça ?
Alors il faut de la matière autour, il faut qu'il y ait de la matière lumineuse qui permette de dessiner en quelque sorte les contours du trou noir. Donc il se trouve qu'au centre de la galaxie, il y a ce qu'on appelle un flot d'accrétion, donc de la matière qui tente à tomber sur le trou noir et qui, en tombant sur le trou noir, s'échauffe. Donc, elle est lumineuse et on arrive comme ça à dessiner quelque part le trou noir grâce à ce contre-jour, si vous voulez.
Alors, toutes ces découvertes, c'est grâce à un instrument qu'on a nommé Gravity. On en a parlé tout à l'heure. C'est un interféromètre. Qu'est-ce que c'est un interféromètre ?
Un interféromètre, c'est un ensemble de télescopes qui fonctionnent de concert, réglés de manière extrêmement précise, avec l'idée force derrière qu'on obtient la résolution angulaire équivalente, donc la capacité à discerner des points de petite taille, qui serait celle d'un télescope de grande taille qui ferait le diamètre, en gros, de l'interféromètre. Voilà, donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière, et c'est pour ça qu'on fait un interféromètre. On ne sait pas faire pour observer Sagittarius à étoile avec la précision à laquelle nous l'observons. Il faut un instrument de 100 à 200 mètres de diamètre. On ne sait pas faire un télescope d'aussi grande taille. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des plus petits télescopes. Alors, c'est quand même des télescopes de 8 mètres déjà, c'est quand même beaucoup, mais qui sont distants de 140 mètres pour faire un instrument équivalent, du point de vue de la résolution angulaire, à un télescope classique.
Mais pourquoi on ne sait pas faire ? C'est parce que le trou noir, il est trop petit ?
C'est parce que le trou noir est extrêmement petit, oui. La taille du trou noir, c'est quelques pièces de 1 euro sur la Lune, vue depuis la Terre. Vous voyez, donc c'est extrêmement petit.
Mais pourquoi on dit qu'il est supermassif ?
Mais oui, c'est ça.
On dit qu'il est supermassif parce que sa masse fait 4 millions de fois la masse du Soleil.
Ah oui. Voilà.
Mais un trou noir, c'est un objet qui est extrêmement compact. Pour faire un trou noir avec la Terre, il faut faire entrer la Terre dans un dé à coudre. Voilà. Alors comme le trou noir au centre de la galaxie est très lointain, il est à 25 000 années-lumière, son extension angulaire, sa taille apparente, apparaît extrêmement petite.
Quand vous dites que vous additionnez la lumière des télescopes, ça veut dire quoi dans les faits? Vous faites converger les faisceaux?
Alors on fait converger les faisceaux, on les additionne, et on les additionne de telle sorte qu'ils puissent produire des franges d'interférence. Donc pour que ça puisse marcher, il faut que tous ces faisceaux, depuis Sagittarius à étoile jusqu'au laboratoire de combinaison, aient rigoureusement parcouru la même distance à une fraction de micron près.
On parle des photons, hein, c'est la lumière elle-même qui est rassemblée.
Absolument, c'est la lumière.
Et l'interférence vous permet d'avoir accès à quoi? Parce que vous ne faites pas d'image.
Alors, on fait pas une image de manière directe, mais on reconstruit les images a posteriori à partir de ces informations-là. Donc, les interférences donnent des franges d'interférence, et les franges d'interférence, en fait, leurs caractéristiques, leur hauteur, leur phase, c'est-à-dire leur position dans l'espace, sont reliées aux caractéristiques de l'objet, donc à l'image en quelque sorte de l'objet.
Pour rester dans le thème un peu de l'émission, oui, est-ce que Guy Perrin, les travaux de Stephen Hawking vous ont aidé à construire cet instrument ou à l'imaginer ou à observer Sagittarius à étoile?
Alors, il se trouve que c'est pas le fait initiateur, mais en même temps, on connaît les travaux de Stephen Hawking, notamment sur le théorème, sur certains théorèmes sur les trous noirs, et on utilise ces travaux, oui, pour l'exploration et l'étude de Sagittarius à étoile.
Marc Lachaiserey, pourtant c'est sur ces travaux autour des trous noirs justement que Stephen Hawking s'est surtout démarqué, non?
Absolument, mais Stephen Hawking, il a travaillé sur les trous noirs en intégrant les aspects quantiques. Et les aspects quantiques d'un trou noir, c'est extrêmement difficile à observer. C'est bien au-delà des expériences et des observations qui viennent d'être mentionnées. Et on n'est pas sûr qu'on arrivera un jour à observer ces effets quantiques sur lesquels il a travaillé. Mais les effets non quantiques qui ont été observés par Gravity et par d'autres observations, eh bien, ils sont déjà décrits par la relativité générale avant même les travaux d'Hawking. Donc, c'est sur un autre registre que Hawking a travaillé, bien que ce soit aussi à propos des trous noirs.
Merci beaucoup, Guy Perrin. Merci d'être venu cet après-midi dans la tête au carré nous parler donc de ces travaux. Merci Axel et à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, toujours d'ailleurs en astronomie, une nouvelle planète naine découverte dans le tréfonds du système solaire, 2018 VG18, c'est l'objet le plus lointain découvert à ce jour autour du Soleil, rapidement surnommé Farout, contraction de l'anglais très lointain. Il mesure un quart de la taille de Pluton et se trouve à une distance du Soleil équivalente à 100 fois celle de la Terre. Détecté par une collaboration internationale de chercheurs, Farout tourne donc très très lentement autour de son étoile, si bien autour de notre étoile, si bien qu'il faudra plusieurs années pour parvenir à déterminer son orbite exacte. De très belles empreintes de dinosaures retrouvées dans la région de Hastings en Angleterre le long d'une falaise érodée par la mer, 85 traces de pattes en tout appartenant à au moins 7 espèces différentes de dinosaures et datant du Crétacé sont donc répertoriées par les chercheurs de Cambridge. Certaines sont si bien préservées qu'on peut encore y voir le détail de la peau et des écailles des animaux. Quelques photos de cette découverte sont visibles dès maintenant sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et puis enfin les requins australiens, grandes victimes de la pêche et des mesures de protection des plages dans un article à charge contre le gouvernement du pays. Une équipe australienne fait le bilan de 60 ans de mesures anti-requins autour des plages du Queensland. Selon les estimations des chercheurs, 92% des requins marteaux et des requins blancs ont disparu, 82% des requins cuivres et 74% des requins tigres. En cause, les systèmes de protection des zones de baignade, filets et chaînes d'hameçons, mais aussi la pêche qui, combinée, aurait coûté la vie à plus de 50 000 individus.